Salut les marques, salut Smart et bienvenue dans Catch Up, le podcast qui transpire le catch. Chaque semaine, on analyse ensemble tous les shows de la WWE et aujourd'hui, un événement historique s'est déroulé à Chicago, dans l'Illinois, puisque nous avons eu les Survivor Series War Games. Nous étions le 25 novembre 2023 et pour m'accompagner dans l'analyse de ce show qui s'est terminé de la façon la plus dingue possible, j'ai avec moi l'ami Giscal. Salut Giscal.
Salut Yereb, salut tout le monde. On est encore sous le choc là, hein, je pense.
Moi je ressors hein, de ma visualisation. Je me suis fait assommer.
Voilà, tout simplement.
Tu sais, à un moment, tu te fais tellement assommer que tu sais plus trop quoi faire ou quoi dire. T'es sonné.
Tu sais plus où t'habites. C'est le chaos. C'est le chaos technique. Voilà, c'est ça.
Et tu te lèves et tu fais, qu'est-ce que je devais faire moi? Attends, j'étais parti faire quelque chose, mais quoi? Bon, j'ai dit que ça se terminait par la façon la plus extraordinaire. Si vous nous écoutez, vous savez déjà de quoi on parle. En tout cas, si vous nous écoutez, que vous avez regardé le show. Parce que des fois, les gens nous écoutent sans avoir regardé, justement, pour savoir ce qui s'est passé. Du coup, bah, qu'est-ce qu'on va faire? On va leur dire. On va leur dire ce qui s'est passé. Nous étions donc à Chicago. Une carte de 5 matchs. Hein. Rappelez-vous, on en avait justement parlé avec Giscal, qui était déjà là à l'époque, dans le gros pré-show des Survivor Series. On se souvient que voilà, il y avait une belle carte. On était un peu dubitatif sur certains matchs. On va voir si on a eu raison d'être dubitatif sur certains matchs. Est-ce que certains matchs nous ont surpris? Est-ce que le War Games, le main event, a été à la hauteur de nos espérances, de nos espoirs? On attaque donc avec l'opener qui, sans grande surprise, Giscal, était le War Games féminin. Oui. On a fait descendre la cage assez rapidement. Assez rapidement, effectivement. Bianca Belair, c'est son équipe avec Shotzi, Charlotte, Flair, Becky Lynch, qui est donc arrivé de dernière minute, affronte Damage Control pour la seconde fois. Damage Control qui entre dans la cage des Survivor Series War Games. On en avait parlé, on en avait discuté l'année dernière. Ça s'était mal goupillé pour Damage Control, qui cette fois-ci est représenté par Bayley, Asuka, Io Sky et
oui. Asuka, Iris. Heureusement que cette année, elles reviennent plus fortes pour inverser la tendance.
Je vois déjà où tu veux en venir. Nous ne sommes pas dupes ici dans les studios, nos auditeurs non plus. On te connaît parfaitement, malheureusement ou pas. On va voir si ils vont te donner raison. Je crois que dans tous les torts que tu arrives à avoir, tu as parfois malheureusement raison. Allez, le match commence entre donc les deux équipes. C'est Becky Lynch et Bayley qui commencent hein, le show, qui sont envoyés. En représentant un numéro uno. Voilà, les deux se mettent sur la tronche au début. Voilà, c'est les Survivor Series, c'est les War Games match. Ça se met en place. Là, on travaille vraiment spot par spot, entrée par entrée. C'est Shotzi qui arrive la suivante. Dakota Kai qui a balancé un kendo stick hein, à Bayley, mais Shotzi qui le récupère. Donc, c'était pas forcément une meilleure idée. Shotzi qui est là pour foutre un petit peu le bordel. Et puis Io Sky finit par rejoindre l'équipe, hein, donc c'est donc les babyface qui ont cet avantage numérique toutes les 5 minutes, hein, puisque toutes les 5 minutes, une nouvelle entrée. Toutes les 3, c'est toutes les 3 minutes.
Oui,
les 3. Dieu trois, merci, ouais. Dieu merci, sinon ça aurait été beaucoup oui. Plus long.
Des fois, ça c'est la première entrée qui est au bout de 5 minutes, mais ensuite c'est toutes les 3.
Ah, ok, c'est la première entrée au bout de 5 minutes. Ok, d'accord, voilà, nous y sommes. Après, même si on sait que historiquement, les chronos ne sont pas forcément toujours exacts. Hein,
oui, non, bah, on fait ce qu'on veut hein, avec les
si chronos. Le compteur disparaît de temps en temps, c'est pas pour rien, ces trucs réapparaissent. Oui, ah, voyez, c'est 30 secondes, d'accord. Ouais. Chelou, le mec vient juste d'entrer, ouais. D'accord.
Ne vous amusez pas à chronométrer au Royal Rumble, vous serez déçus. La magie disparaîtrait. Oui.
Donc, on se balance quelques spots. Bianca qui rejoint ensuite le show, qui utilise évidemment sa double tresse, double natte là, comme arme. Les babyface qui dominent, hein, mais à chaque fois, c'est les heels qui parviennent à reprendre plus ou moins la main, avec notamment Kairi Sane qui vient, voilà, notre pirate préféré, qui arrive aussi. C'est assez bizarre son entrée à Kairi Sane, j'ai trouvé. Oui. Elle arrive, ouais. Ensuite, Io qui balance Kairi Sane pour avec un gros. Enfin voilà, ça descend du coude après avoir. Je sais plus qui était allemand la cible à un moment donné. Tu étais Io qui balance Kairi Sane pour qu'elle fasse sa descente du coude sur Shotzi qui s'est recouvert de
sur les chaises. Ce qui doit faire beaucoup plus mal au coude qu'à la personne en dessous.
Alors, c'était idiot, mais j'ai bien aimé. Un de mes spots préférés, j'ai trouvé.
Oui, voilà. C'est ça, finalement. On s'en sort comme ça.
Et ensuite, on a Charlotte. Charlotte qui est entrée. C'est le premier Wargames de Charlotte Flair. Mon beau Jessica.
Oui.
Ouais, tout simplement. Oui. Voilà. On nous rebalance le fameux spot de Yo qui fait son saut de l'enfer, le crossbody, là, depuis de la cage, en étant dans une poubelle. Voilà. On y a droit à chaque fois. Oui. Cette fois-ci, elle le fait dans le main event.
C'était déjà vu ça ? C'est vrai que j'étais
assez... NXT.
Ah bon, bah, écoute.
NXT,
il faut suivre, alors.
Et en fait, si tu écoutais bien, tu avais les commentateurs qui disaient à un moment donné. On célèbre le retour de notre ami Corey Graves, qui est de retour.
Et oui. Hein, félicitations, jeune papa.
Et voilà. Et qui, lui, du coup, a relevé. Hein. Il connaît NXT.
Ah bah oui.
Il regarde et il apprécie ce qu'il fait du côté de la brand de développement de Triple H. Et donc, effectivement, Io Sky, il y a une petite référence. Le fait qu'ils disent à un moment, vous savez ce que ça veut dire tu sais ce que ça veut dire, Michael, quand Io Sky commence à mettre la tête dans une poubelle. Et là, Michael Cole fait oui. Et en fait, t'as un moment de silence. Parce qu'à mon avis, on a dû leur dire oui, mais alors ne le racontez pas. Ne dites pas ce qui va se passer. Parce que là, on est dans le main event. Et on veut la surprise.
Ah bah écoute, moi, j'ai été surpris.
Ouais, voilà, Jessica ne le sait pas.
Taisez-vous, il ne sait pas.
Du coup, ils ont eu raison de se faire interrompre et de ne pas révéler ce grand moment, effectivement, un deuxième gros spot de la part des heels, hein, qui finalement ont eu les spots les plus sympas. Hein. Je crois que quelque chose que tu avais... Tu as dit quelque chose genre, tu as popé plus souvent pour les heels que pour les faces,
je crois. C'était encore une fois habilement construit, tout ça. Mais oui, tout à fait, oui.
Asuka débarque. Alors, évidemment, Asuka, elle vient avec les tables et elle fait rentrer les tables parce que c'est une île qui veut se faire apprécier.
Oui. La foule qui ne réclamait que ça à chaque entrée. À chaque fois que quelqu'un allait prendre un truc sous le ring, tout le monde priait pour que ce soit des tables et à chaque fois, ils étaient déçus. Et bah, ils ont donné les tables à Asuka, oui, en effet.
Becky, Bianca qui se font dropkicker là, elles sont attachées l'une à l'autre, elles se font dropkicker. Charlotte qui a son big spot, qui elle va placer son moonsault hein, depuis le haut de la cage. Ça c'était vraiment cool aussi, quand voilà, les babyface ont aussi des gros spots, hein, je vous rassure. Même si ça on pouvait dire que ça fait un peu doublon peut-être avec le spot de Kairi Sane, de Io Sky, excusez-moi, ma langue a fourché. Non pas qu'elles soient toutes pareilles pour moi, même si elles avaient tout un joli masque hein, pour entrer. Damage Control, elles étaient toutes masquées comme ça. Il y avait un petit effort qui avait été fait pour que toutes les filles soient au diapason. Donc on a Kairi, Bailey qui prépare le spot pendant qu'il y a des soumissions qui sont placées à droite, à gauche. Le Mist qui est loupé de la Paraskaya, elle avait réussi à le placer une première fois sur Shotzi, mais elle loupe le deuxième et à la place elle se prend tout simplement un coup d'extincteur. Alors pas un coup d'extincteur, elle se fait éteindre quoi, hein, la fumée, voilà, elle se prend dans la tronche par notre amie Bianca Belair. Ça c'était rigolo aussi d'avoir ce petit contre du Mist là. Et puis on arrive à un moment donné par le Spear qui est balancé par Charlotte. Et Bailey qui sauve Kairi Sane de ce spear. Et du coup, Bailey, à ce moment-là, c'est la fin pour Bailey. Elle va se faire tout simplement démonter. Est-ce qu'il y a une expression pour ça quand tous les babyface placent leur finisher sur. Peut-être se faire islettery. Il se fait
islettery. Oui. C'est ça, exactement. Elle a eu le spot de islettery.
Voilà, le traitement islettery. Et à la fin, le main handle slam à travers la table. Voilà, gros spot aussi pour terminer. Et un match qui se termine au bout de 33, voilà, plus de 33 minutes. Une grosse demi-heure. Uh-huh. Alors, voilà, on a enchaîné les spots. Au détriment peut-être de la storyline hein, de cette road, hein, ce booking qui finalement a été fait un peu à la dernière minute. Est-ce qu'elles ont réussi, on a quand même Jessica, là, j'ai quand même Jessica avec moi, est-ce qu'elles ont réussi à te tirer un petit sourire, voilà, t'arracher un petit sourire comme ça.
Non, bah écoute, on va dire que je partais avec des attentes très très faibles, donc j'ai été plutôt agréablement surpris de ce match que j'ai trouvé assez propre. Après, ai-je été enthousiasmé ? Est-ce que je me suis éclaté ? Non, clairement pas. Par contre, est-ce que je me suis emmerdé ? Non plus. Enfin, ce serait un peu exagéré. Écoute, c'était un opener, ma foi, divertissant, mais globalement, on va dire, dans les grandes lignes, assez fidèle à ce à quoi je m'attendais, à savoir Bah ouais, pas beaucoup d'histoire. On peut pas leur reprocher d'avoir été brouillonne, parce que je trouve que c'est un match qui a été quand même globalement assez propre. Les spots étaient bien exécutés. Globalement, le catch était sympa. L'utilisation des objets était sympa. Mais voilà, je trouve que c'était assez typique de cette... En fait, c'était un petit peu tout ce que j'aime pas trop dans cette stipulation. C'est beaucoup de cache-misère avec des objets. Alors, c'est vrai qu'ils... Bon, ça tranchera pas mal avec le main event. C'est vrai qu'elles ont... Ils ont chargé ce match avec beaucoup d'armes et de fournitures. Là. C'est Ikea, là, c'était vraiment... tout y est passé. Les kendo sticks colorés, pas colorés, l'extincteur, les couvercles de poubelles, les poubelles, les tables, les chaises. Il manquait que des échelles, peut-être, je pense, là-dedans. Donc, on a eu le droit à tout. Après, quand je dis que c'est vraiment tout ce que j'aime pas dans cette stipu, c'est-à-dire que je trouve qu'on a retrouvé quand même beaucoup les défauts de l'année dernière, à savoir, en fait, une phase... jusqu'à remplir le ring, qui est quand même assez chiante, là, pour le coup. Et un match qui ne démarre vraiment qu'une fois le second coup de cloche, parce qu'on a... Alors, c'est pas de leur faute, mais c'est juste que c'est globalement, je trouve, mal produit, en fait, toute cette phase d'attente, où les méchantes arrivent et en fait au lieu de se précipiter dans le ring pour rétablir l'équilibre, et ben en fait elles s'arrêtent et puis elles cherchent des trucs pendant des années là, elles cherchent des trucs sous le ring pour remplir le ring d'armes, alors que par contre pour le coup les gentils, je trouve l'équipe des face était plutôt plus cohérente, un petit peu plus cohérente, parce que généralement quand une face était libérée de sa cage, elle courait à fond pour pouvoir vite retrouver ses copines. Mais c'est vrai que tu t'as mentionné par exemple le cas de Kairi Sane qui elle a fait une sorte de petite marche de pirate là en arrivant au ring, c'était absolument ridicule. Asuka qui dansait comme d'hab, enfin bref, tout ça était un petit peu étrange, mais d'ailleurs plus globalement le booking de Damage Control était bon. Alors encore une fois, on se demande qui vraiment est chargé d'écrire cette faction, parce que c'était elle qui attirait à chaque fois les pops du public, hein. Tu as mentionné le spot de la poubelle qui est quand même un gros spot qui n'est pas trop de nature à te faire huer Io Sky, le coup de Asuka qui ramène les tables dans le ring, puis même plus globalement, t'avais Io Sky, Asuka, Kairi Sane qui dans le ring, dès qu'elles avaient un peu l'avantage, plutôt que de taunter un peu la foule ou d'être un petit peu... ça manquait d'agressivité, de vice, quoi, plutôt qu'il y ait ce sentiment vraiment de deux factions qui se détestent, qui s'affrontent. Il y avait toujours ces minauderies, ces petites danses, ces mouvements chaloupés des bras. Là. Enfin, moi, c'est vraiment un truc que je comprends pas. C'est, je vois vraiment pas quels sont toujours les arguments qu'on est censé avoir pour ne pas les aimer, en fait. Parce que c'est vrai que leur loufoquerie un peu et leur détachement les rend quelque peu attachantes, j'ai envie de dire. Donc, un match qui, voilà, un enchaînement de spots, cette phase d'attente pas très bien servie. Damage Control toujours pas très très bien écrit, je trouve. Et puis mine de rien, voilà, il y a cette fin de match qui est qui est, ma foi, assez divertissante, hein. C'est vrai qu'une fois que t'as les 8 dans le ring, ça pétarade, c'était assez fun à suivre, c'était assez intense. Peut-être doublon, oui, entre le moonsault et le coup de la poubelle. Là, c'est vrai que ça fait un petit peu toujours un peu chorégraphié. Quand t'as déjà un spot comme ça où t'as toutes les filles qui attendent fébrilement que l'autre leur tombe dessus, quand tu l'as deux fois dans le même match, c'est peut-être un peu beaucoup. mais bon, écoute, somme toute, voilà, un opener qui fait le café, clairement. Et Damage Control qui perd à la fin. C'est un peu une règle immuable du catch, hein. Tu vois, finalement, dans les pronos, on s'était dit, quand tu sais pas trop pronostiquer, tu votes contre Damage Control, tu prends pas trop de risques. Bah, écoute, ça m'aura servi pour le coup. Parce que finalement, Damage Control, la boucle est bouclée, quoi. Enfin, je vois pas, on en revient à l'analyse qu'on avait de ce match. Quel est l'intérêt de ce match, en fait, finalement? Et Damage Control, qui soi-disant est une super équipe, super faction, bon, ça fait un an et demi qu'ils sont là, ils perdent toujours, quoi qu'il arrive. Dakota Kai qui a tweeté après le match, oui, c'est pas grave le résultat, je suis trop fier de mes girls, machin, nanana, avec des cœurs et tout. Voilà, c'est ça Damage Control, quoi, c'est des loseuses. c'est ce tweet, quoi, c'est des loseuses, c'est tout. Il n'y a rien d'autre à faire de plus, et donc... On va essayer de nous vendre que c'est manifestement intéressant que le leader d'une faction loser se fasse évincer. Bah écoute, j'attends de voir comment ils vont rendre ça intéressant. Écoute, bon opener, mais ça confirme tout l'intérêt que j'avais pour cette storyline, mais bon opener.
Bon opener, et je te rejoins dans ce que tu as dit. Qu'est-ce que tu as pensé de cette mini storyline? Parce que j'ai dit qu'il n'y avait pas beaucoup de storyline, il y en a une petite. C'est le... Ça sera biboche entre Charlotte et Becky Lynch, oui. En plein milieu,
oui,
du match.
C'est vrai que, c'est vrai qu'en effet... Ouais, d'ailleurs, je pense que tu l'avais dit un peu dans ta preview. Tu disais, non, mais attends, c'est difficile de voter contre Becky Lynch, Charlotte, Bianca Belair. Et d'une certaine manière, tu avais raison. Et on pouvait se dire qu'à la limite, la défaite viendrait fatalement d'un dysfonctionnement à un moment ou un autre. Bon, finalement, ils ont pris le contre-pied de ça en faisant une réconciliation express. Calin tape dans le dos et tout. Écoute, ouais, c'est sûr que c'était un petit événement. En effet, on n'en a pas parlé. Petit événement d'une certaine manière, à voir ce que ça va donner. Elles sont dans deux brands différentes, donc c'est vrai qu'on a un peu du mal à percevoir l'intérêt, en quelque sorte, d'avoir raconté ça. Est-ce qu'il y a une suite ? On a aussi le droit d'en douter, hein. Ça pouvait vraiment être un one-shot, histoire un peu aussi de justifier le fait que voilà, les gentils vont gagner. Je t'avoue, je sais pas trop quoi en penser. Qu'est-ce que ça va entraîner ? C'est vraiment moi le fait qu'elles soient dans deux brands séparées, même si on sait que ça veut plus dire grand-chose.
Mais... Ouais, effectivement. Oui, ça n'a... On aurait pu se passer de cette histoire-là, évidemment, mais ouais, c'était un petit peu. Je trouvais ça assez un petit peu ridicule. Ça n'a pas, ça ne retire pas toutes les mérites et toutes les bons points qu'on a pu avoir dans ce match, qui certes manquait un peu de substance, qui certes malheureusement nous raconte encore et encore la même histoire de Damage Control qui est pas foutu de gagner un match quand c'est important. Ouais. Ça fait mal d'avoir raison.
Je sais pas ce qu'il cherche, je sais pas ce qu'il cherche avec ce groupe.
Non.
Mais bon, le prochain épisode de SmackDown va falloir maintenant nous expliquer que. L'éviction de Bayley, ouais, d'un groupe qui perd, ouais, je sais pas, c'est parce qu'ils vont se dire qu'ils ont perdu à cause d'elle, je sais pas, ouais, ça va être, j'imagine que ça va être un peu ça l'histoire.
Ouais. Même si, ouais, je suis pas sûr qu'on nous a vraiment raconté ça dans le.
Ouais, c'était quand même très limite. Hein. Si c'est ça, c'est très tiré par les cheveux.
Elle s'est sacrifiée pour le spear, ouais. Celle qui s'est mangée tous les finishers, celle qui a eu le traitement Slater. Donc ok, donc ça va faire quoi, des japonaises qui vont être les méchantes parce qu'elles se débarrassent de la pauvre Bayley qui. Finalement se fait botter les fesses alors qu'elle a tout fait pour la faction. Ah, c'est assez étrange, quoi. C'est assez étrange, ouais. Effectivement. Ouais, ouais. Bon, en tout cas, c'était notre opener, notre premier War Games. Et puis, entre ça et le main event, on sait, voilà, on rentre ce que Raphaël appelle un peu le ventre mou de cette soirée. Mais il y a quand même eu, écoute, des bons matchs. On est plutôt redescendu en température, c'est vrai. On est retourné un peu en mode weekly. Jusqu'à l'arrivée du War Games. Alors pendant tout ce temps-là, il y a eu quelques petites séquences, un petit fil rouge hein, avec tous les poteaux là qui attendaient l'arrivée de Randy Orton. Personne n'avait de nouvelles de Randy tout au long de la soirée. Et on verra plus tard, on n'en aura pas avant le dernier moment. Donc c'est le stress, ça se chauffe un petit peu, voilà. Hein, les hommes, voilà, on se dit que est-ce qu'ils vont réussir à rester au diapason. On a eu une petite séquence avec les tag teams. On a eu de la pub. On a R-Truth qui a fait son grand retour, justement, pendant cette pub.
Incroyable. Quel pop. Ouais, on a entendu la All-State Arena rugir de plaisir dans ce qui devait être, j'imagine, projeté sur le grand écran du stade. Ouais. Donc, c'était assez rigolo. Ouais.
Et puis, la doublement de Tozawa. Hein. Combien de fois on a comparé Tozawa à
R-Truth? Ah oui, absolument.
Tozawa en lui disant, vas-y, fais ta petite danse avec tes chips, là. Donc ça, c'était plutôt amusant. On a aussi eu les New Day qui ont fait un petit coucou, faire de la pub pour Slim Jim avec une belle bagnole. Oh yeah! C'était donc, voilà. On a eu deux matchs quand même sponsorisés. Hein. Ils y vont.
Ouais, Slim Jim, ils ont mis le paquet, hein, tu sentais. Et puis même pendant la conférence de presse d'après Pay-Per-View, il y avait du Slim Jim partout. Il y en avait trop d'ailleurs sur la table, tellement Triple H a dû même écarter les bâtonnets Slim Jim pour pouvoir voir les reporters.
Le Miz qui se fait bully, hein, voilà, la victime, Miz la victime,
oui.
Voilà, le weirdo qui affronte Gunther pour un match pour redonner justement du prestige à ce titre, le titre intercontinental, le Miz qui mise justement le record de Chris Jericho, et on verra plus tard que finalement Chris Jericho n'était pas très loin dans ce match,
non.
Il était dans nos cœurs, dans nos esprits et dans les genoux. De Gunther, le Miz donc qui affronte Gunther qui est le roi des bullies autrichiens. On a eu donc un match où le Miz en nouveau babyface garde sa filouterie hein, tout au long du match. Il a retiré sur la fin le coussin protecteur hein. Donc, l'arbitre était pour distraire l'arbitre, il a fait son loblo, même deux hein, je crois qu'il en a placé hein, deux fout dans les valseuses à Gunther. Le skull crushing finally, mais ça n'a pas suffi. Gunther qui finit par le contrer, même, il lui a appliqué un gros slipper. Le Miz qui le balance dans le coin où le coussin a été retiré. Hein. Le compte qui va 1-2, et ça ne va pas plus loin à ce moment-là. On aurait presque pu y croire. Mais voilà, Gunther est fort, Gunther est trop puissant. Il balance une énorme clothesline au Miz. Le splash, hein, ce beau saut carpé de la part de notre ami autrichien. Et derrière, tout simplement, la prise de Chris Jericho, hein, le Walls of Jericho. C'était Leon Tamer qui lui a passé. Oui, c'est ça. Exactement, pour la soumission. La soumission. D'abord, il lui a pas peut-être fait les deux, le Walls of Jericho, et après un Lone Tamer, comme ça. Il attrape la corde.
Non, après... en fait, le truc, c'est qu'en fait, le Boston Crab, c'est vrai que ça ressemble pas mal au Walls. Alors, je pense que c'est peut-être la transition qui y fait penser, mais j'ai pas eu de souvenir, non, je crois pas. Mais peut-être,
en tout cas, voilà.
Peut-être que tu as raison. Peut-être que
t'as ouais,
raison.
Ouais, hommage. Hommage.
En tout cas, oui, clairement, hommage.
Provocation, hein. C'est un hommage, mais dans la provocation, évidemment. De Gunther qui soumet son adversaire, qui voulait justement rejoindre atteindre ce record détenu par l'ancien champion aux 9 titres intercontinentaux. Et donc, la victoire inévitable, hein, inéluctable même, de Gunther. Bon, Giscard, il n'y avait rien à faire là, ce soir. Et mission impossible pour le Miz.
Il n'y avait rien à faire, il était intouchable. Mais écoute, là aussi, je trouve qu'ils ont répondu présent sur ce match. Le Miz a été plus qu'au niveau. On sait qu'on peut toujours compter sur le Miz. Je paraphrase les mots de notre maître à tous, Triple H, qui, en conférence de presse, a rendu hommage au Miz. Tu vois, il disait, le Miz, quand on a besoin de lui en porte-parole de la compagnie, il est là. Quand on a besoin de lui en catcheur, il est là. Quand on a besoin de lui en entertainer, il est là. Quand on a besoin de lui en comédien, il est là. Il sait tout faire, il sait globalement tout faire pas loin mieux que les autres. Et c'est vrai que il a fait un magnifique challenger dans ce qu'on savait qui serait un match de transition pour Gunther. Mais écoute, voilà, moi, tu vois, je sais pas si ça a fait vibrer tout le monde, mais il y a eu le petit... On en a parlé pendant la preview, il y a eu ce petit frisson, en tout cas me concernant. C'est vrai que ce low blow suivi du skull crushing finale, il m'a fait légèrement vibrer, il m'a fait me lever un peu du canap quand même pendant une fraction de seconde. Et d'une certaine manière, c'est un petit peu tout ce qu'on demande à ces matchs contre ce monstre qu'est Gunther, qui est tellement fort pour... dominer, nous faire croire qu'il est un petit peu blessé pour au final nous écraser là et vraiment éparpiller nos rêves là comme ça en mille morceaux. Écoute, belle prestation et joli hommage à la fin, en effet très joli clin d'œil avec ce Lion Tamer pour finir. Voilà, tout ce qu'on était en droit d'attendre, je trouve, sur cette défense de titre et qui a largement rempli son job en milieu de carte de ce Survivor Series pour moi.
Voilà, ça a duré une grosse dizaine de minutes, on était en dessous de la barre du quart d'heure, hein, ces fameux quarts d'heure qui sont finement analysés pour les audiences américaines. Et ben là, voilà, on a eu juste en dessous des 15 minutes avec effectivement ce Miz qui a tenté de faire tomber le géant en s'attaquant à sa jambe, avec notamment le figure fort. Hein. Il a une grosse panoplie de babyface, le Miz, qu'il a récupéré auprès des plus gros babyface de la compagnie quand même, entre le figure fort, les yes kicks et tout, c'est assez amusant. Est-ce que ce face turn va fonctionner? Pour l'instant, il est plutôt bien parti. Hein. On sait qu'il n'y a pas eu toujours des face turns qui ont été réussis pour le Miz, ou alors pas toujours très, très joyeux. On se souvient que sa défaite face à Shane McMahon a été dure à avaler, évidemment, sur 2019. Mais là, nous sommes en 2023, et Santos Escobar doit affronter, non pas Carlito, le mangeur de pommes, mais Dragon Lee, le mangeur de poires. Du coup, je suis bien embêté, puisque Dragon Lee, je sais qu'il aime les poires. Alors pour mes tiebreakers...
Et pour le tiebreaker, c'est compliqué.
C'est chaud. Donc, effectivement, les pronos ont été changés au dernier moment, quand Dragon Lee a donc remplacé notre ami Carlito à SmackDown. On ne va pas vous faire le résumé de tout ce qui s'est passé à SmackDown. C'est vrai que là, je me rends compte qu'on n'a même pas fait le résumé de SmackDown, Bobo Giscard, qu'on fait
habituellement. Oui, c'est vrai,
Mais c'est passé tellement de choses dans ce même review, quoi. On est déjà dans le futur.
Ça, gardera ça pour Raw.
Ouais, on fera un petit récap rapidement pour juste avant l'Euro, comme on fait à l'ancienne, un double ration, double super catch-up. Dragon Lee versus Santos Escobar, et bah écoute, c'est tout simplement la relève de demain. La relève d'aujourd'hui par les petites stars montantes d'NXT, Dragon Lee. Hein, on sait qu'on est, on est fan ici de Dragon Lee. Le mec saisit sa chance, et là, bah écoute, voilà, il s'est fait remarquer jusqu'à. Combien de fois on a dit Dragon Lee? Il a eu 2-3 matchs, et à chaque fois, il a délivré.
Et oui.
Bah écoute, et oui. Regarde. Et oui.
Et bah voilà. Oui. Bah voilà.
C'est simple. Tu fais le job, tu fais le taf, et derrière, t'es récompensé.
On te rappelle, c'est tout.
On te rappelle. Et là, il était rappé. Dragon Lee qui vient donc venger l'honneur de la LWO. Alors, c'est pas forcément un grand mérite en soi, mais écoute, ça a le mérite justement de le faire mettre sur une carte d'un PLE. Alors, Santos, très agressif, hein, évidemment, durant ce match, qui revient avec sa belle entrée. Là, j'aime bien, moi, son petit entron. Il arrive là avec son tapis.
Avec son tapis, oui.
Avec son tapis, et puis sa musique, là, c'est son ancien theme song, hein, de la... comment s'appelait sa faction? Mince, j'ai oublié le nom de sa précédente.
Ah oui, Ingor... Non, je sais pas...
Non, c'était les autres.
Ah oui, merde, c'est les autres. Attends, comment ça s'appelait?
Comment s'appelle la faction? Pendant que je continue le déroulé, je compte sur toi pour retrouver le nom de l'ancienne faction de Santos Escobar, la Familia. Il a donc gros affaire là ce soir. Santos Escobar, il attaque, il essaie tout simplement d'affliger le même traitement à Dragon Lee qu'il n'a affligé à Rey Mysterio. Il le coince dans les escaliers, les marches en fer, mais cette fois-ci Dragon Lee parvient à s'en échapper. Il veut pas se faire couper la jambe, il veut pas se faire amputer, Dragon Lee. Donc il saute, il bondit, il s'en échappe. Santos qui n'est pas content, il essaye de retirer le masque de Dragon Lee, ça c'est pas très sympa. La hit commence un peu à monter entre les deux hommes, les deux luchadors là, ça saute dans tous les sens avec des gros coups là, des gros strikes, ça tape dur, hein, ça tape dur. On a une énorme power bomb et suivi d'un phantom driver là pour Santos Escobar. C'est assez costaud, et puis derrière donc le compte de 3, 1, 2, 3, victoire de Santos Escobar sur Dragon Lee dans un petit match voilà, de 10 minutes, pas eu le Canadian Destroyer et le Phantom Driver qui a un sacré enchaînement quand même pour coucher son adversaire du soir en moins de 10 minutes, pas de points américains, pas de poire, pas de piñata, voilà.
Non. Rien du tout, oui, rien du tout, très sobre. Hein. Enfin, il y avait quand même un tapis.
Un tapis.
Il y avait un beau tapis volant magnifique, ça. Moi qui ne suis pas un connaisseur de Santos Hill, qui du coup, j'ai retrouvé, c'est Legado del Fantasma. En effet, match sobre, mais match, ma foi, assez efficace. Alors. Bon, c'est, en effet, incontestablement, Dragon Lee a marqué beaucoup de points ce samedi. Écoute, on l'a appelé, il a répondu présent une nouvelle fois. Donc, c'est vrai que Dragon Lee continue son petit bonhomme de chemin. Et Santos Escobar en profite pour tamponner, entre guillemets, son heel turn avec une victoire qui était inévitable, hein, que c'était contre Carlito, je pense, ou ici. Qui était plus facile à booker, sans doute. Alors peut-être qu'en effet, ce changement d'adversaire de dernière minute est finalement, d'un point de vue de storyline et de booking, assez malin, parce que ça permet en effet de donner une victoire plus facile à Santos, tout en gardant peut-être cette affiche sous le coude et protégeant un petit peu plus Carlito. Donc big up à eux pour ce petit changement de dernière minute qui a permis de récompenser un mec qui a le vent en poupe. Hein, voilà, Dragon Lee, la lucha libre et tout, c'est peut-être pas mon truc préféré, mais écoute, ils nous ont fait un bon petit match. Après, voilà, les louanges passées, enfin en tout cas les compliments passés. Et je te cache pas que moi de mon côté, voilà, ça fleurait quand même fort le weekly.
Oui.
Et c'est vrai que on était même si j'ai pas plus apprécié que ça le Wargames, il y avait quand même, voilà, il y a le côté grandiloquent, grand spectacle, décorum et tout. On sortait d'un match costaud, match intercontinental. On enchaîne derrière. Il y a un petit sentiment quand même de descente un peu dans les arcanes de la mid-card qui commençait à se faire sentir et qui fait que j'ai peut-être pas non plus pleinement apprécié ce match-là. Même si, voilà, encore une fois, je retire pas toutes les bonnes choses que j'ai pu dire dessus.
Oui, voilà, c'est ça. On va comme s'enfiler trois matchs. Celui-ci, un petit match sans grands enjeux. Enfin, si, un enjeu purement sur le personnage de Santos Escobar. Mais c'est vrai que déjà, tu te souviens qu'on avait parlé de la preview, on avait dit putain, Carlito et Escobar, ils vont réussir à se placer sur la carte des Survivor Series, ni vu ni connu.
Ouais, ouais,
ça
ni
faisait, ni ça faisait un peu la filouterie, quoi, des mecs qui ont vu qu'il restait 10 minutes, c'est sur le tableau des matchs, des fois, hop, hop, ils ont mis leur nom.
Je prends, je dispo.
Et puis personne ne réagit, toi, parce que ouais. Personne s'y attend. Et puis finalement, ils sont passés. Alors, ouais, on redescend en intensité, on était clairement dans du weekly level. Voilà, c'est un match très solide de la part des deux protagonistes, mais en plus il s'est rien passé de très particulier d'un point de vue storyline. Il n'y a pas eu d'overbooking, il n'y a même pas eu de petits rappels vraiment à ce qui s'était passé avec le point américain ou
Ouais, non,
il y a le petit rappel avec Rey Mysterio comme avec les escaliers, les marches. Donc ça c'était plutôt sympa, mais après ça s'est vite assagi. Et malgré voilà.
Facile.
Ouais, voilà, une petite victoire. Mais comme tu l'as dit, c'est ce qui compte, c'est la victoire. Pour Escobar et pas d'essayer de nous filouter. C'est bien quand ils font ça. Des fois, il faut mieux être content de ce qu'ils ont fait plutôt que de ce qu'ils auraient pu faire et qui aurait été une mauvaise idée.
Ouais. Non, mais ouais, je suis d'accord.
Allez, on continue. On remonte peut-être d'un cran. En tout cas, il y a de l'enjeu cette fois-ci puisque Rhea Ripley défend son titre face à Zoé Stark. Rhea Ripley qui ne défendait pas son titre au début, mais maintenant elle le défend tout le temps. Qu'est-ce qui se passe, Rhea Ripley? Où elle arrive, alors les deux sont peinturlurés, des peintures de guerre, hein, pour Zoé Stark et Rhea Ripley, qui s'est en plus fait une coupe de cheveux.
C'est la coupe de cheveux des grands soirs.
Ouais, des grands soirs, voilà. Soirée aussi, c'est rock français des années 80, quoi.
c'est coupe Indochine, voilà, c'est ça.
Ouais, c'est ça. D'Indochine, voilà. La dernière tournée, cette fois-ci, on vous le premier, c'est la DRDDR. Je vous assure, bien sûr, ils ont 80 balais, tout pas les mecs, mais c'est pas grave. C'est ça le rock, c'est l'esprit rock. Et c'était rock'n'roll. C'était rock'n'roll puisque on connaît pareil, Zoé Stark qui a gagné. Zoé Stark qui a tapé dans l'œil des Bookers, qui a tapé dans l'œil de Giscal. Et du coup, quand on tape dans l'œil des Bookers et Giscal, on se retrouve sur la carte d'un pay-per-view. C'est assez simple. C'est très très simple. Moi, je vous le dis. La formule est très simple. Et donc, Zoé Stark, elle est hargneuse. Elle se bat. Elle en demande à un moment donné. Elle se fait tabasser. Elle demande à Rhea Ripley tout simplement de la frapper. Je pense que, voilà, à part Dominic Mysterio, peut-être le soir aussi, qui doit demander la même chose, demander à Rhea Ripley de te frapper, c'est pas forcément l'idée du siècle. La tension retombe un petit peu, le public à ce moment-là, c'est un petit peu refroidi, malheureusement, c'est dommage, hein, parce que. On avait une grosse foule. Enfin, c'était quand même un match, j'ai trouvé vraiment bien ficelé, à la hauteur de ce qu'on pouvait imaginer, toi, avec. Très agressif de la part et d'autres, sans grande surprise. Donc c'est vrai que voilà, t'es pas soulevé, t'es pas surpris, quoi. T'es pas emporté non plus par ce qui se passe. Ça se passe comme prévu, en fait. Hein. On est quand même globalement trois matchs qui se sont passés comme prévu. Hein, c'est peut-être ça aussi qui a fait que l'ambiance s'est retiédie un petit peu. Ça se trash talk pas mal. Rhea Ripley qui est assez dominatrice, mais qui revient tout le temps à la charge avec des gros kicks et puis ce super spot là où elle bondit. Un vrai pitbull et puis elle saute un par-dessus la corde. Je sais pas comment s'appelle cette prise là où elle saute, elle s'enroule, elle fait la boule autour de la troisième corde et depuis l'extérieur du ring, puis elle retombe.
Sur. Je sais pas si c'est un nom, mais en tout cas c'est très sympa.
Si c'est un nom, donnez-le nous. Je veux savoir comment ça s'appelle. Ouais. Surtout qu'elle l'a changé parce qu'avant cette prise, elle prenait appui. En fait, elle bondissait sur la corde, elle sautait, elle bondissait sur la corde et après elle faisait sa toupie. Là cette fois-ci, enfin, elle fait un truc assez dingue, c'est très athlétique. C'est tout. Zoé, tu es très athlétique. Et puis donc, on a eu ce fameux moment où les deux se... demande à Rhea Ripley de la frapper, alors même si elle à ce moment-là a déjà bouffé pas mal de coups quand même. On a eu des German souplesse. Les deux ont placé des German souplesse. Ça, c'était cool de voir ces femmes se souplesser les unes les autres. Et puis le Riptide à la fin pour Rhea Ripley en moins de 10 minutes. 1, 2, 3, victoire. Rhea Ripley a dominé. Il n'y a jamais vraiment de grosses tensions, de grosses surprises, et puis un résultat clair à ce moment-là. Est-ce qu'on est toujours en mode weekly, mon beau Giscal? Comment tu t'es senti là? Tu t'es dit, ouais, ça y est, c'est bon, le main event arrive?
Ouais, j'étais là, je me dis, bon, allez, vivement le main event. Ouais, je suis un peu... c'est peut-être... tu vois, maintenant, en plus, je prépare un peu mon mot de la fin, peut-être, j'en sais rien, mais c'est vrai qu'avec le recul, tu vois, c'est peut-être ce match-là qui m'a un peu laissé chafouin. Encore une fois, il y a rien de catastrophique, c'est très propre. Zoé Stark a été D'une certaine manière, on ne peut pas lui reprocher grand-chose. Elle a été à la hauteur de l'événement, en quelque sorte, de par son attitude, son intensité. Sa petite peinture de guerre là, sur la face, c'était une jolie petite touche qu'elle a rajoutée en plus. Le trash talk, elle a placé ses moves. Je pense qu'on peut difficilement en vouloir à Zoé Stark qui a rempli le rôle qu'on lui a donné. Et justement, je pense que c'est peut-être ça le souci, c'est le rôle qu'on lui a donné, qui, je trouve, était un peu modeste, un peu timide. Ouais. J'avais loué, on va dire, cette rivalité naissante, enfin, en tout cas, cette petite rivalité de transition sur laquelle il fallait pas se faire trop d'illusions non plus, mais cette petite rivalité de transition, parce que j'avais trouvé qu'au niveau de la production de leurs promos respectives et même de l'attitude de Rhea Ripley vis-à-vis d'elle, ils avaient fait un bon travail pour beaucoup en donner à Zoé Stark. Et ben, j'ai pas du tout ressenti ça sur ce match. J'ai trouvé que voilà, Zoé Stark est passée et est repartie presque aussi vite qu'elle est arrivée. C'est globalement une domination assez unilatérale de Rhea Ripley, qui était la star. Et il n'y a pas de débat sur le fait que ce soit la star, c'est évident que c'est elle la star. Mais voilà, je trouve que c'était peut-être un peu trop à sens unique et un peu trop facile. Et bon, bah voilà, certains peut-être diront que bah oui, c'est aussi à Zoé Stark d'exister en quelque sorte face à l'étoile Rhea Ripley qui, enfin, c'est vrai que elle arrive, sa musique retentit, elle sort et elle crève l'écran. Enfin, c'est à tel point que en plus, c'est vrai que Zoé Stark avait pas match facile parce qu'elle devait même se battre avec la foule au début du
ouais,
match,
hein,
parce
ça,
que
ouais.
la foule était conquise par Rhea Ripley qui de toute façon, ouais, enfin. Irradie tellement de charisme ces derniers temps toute la scène féminine que c'est très difficile. Mais voilà, justement, je trouve qu'ils n'ont pas donné une partition à un rookie si maligne que ça en termes de production de match. Et je trouve qu'on sortira de cette défense sans vraiment grand souvenir marquant. Et tu vois, il n'y a pas eu, comme avec Miss Gunther, sur lequel on ne se faisait pas trop d'illusions, il n'y a pas eu ce petit frisson qu'on est en droit d'attendre sur ces matchs en quelque sorte couru d'avance. Il n'y a pas eu ce petit frisson, ce petit moment où tu te dresses un tout petit peu, tu te tends, ton corps se tend, tu dis est-ce qu'il va se passer quelque chose ? Tu vois, là, vraiment, il n'y a eu aucun doute à aucun moment du match. Et c'est un peu dommage. Voilà, je regrette ça. Et je me dis que c'est plus un sujet de prod que la pauvre Zoé que j'ai trouvé vraiment. En tout cas, elle m'a conforté dans le fait qu'avec du boulot et du temps, ça pourrait être une vraie player de la division féminine, quoi.
Ouais, ouais, une vraie player. C'est effectivement, voilà, on a presque eu. Ça n'a pas fait forcément la même chose avec Dragon Lee, mais tu sais, on a l'impression qu'ils ont mis tous ces rooks, tous ces catchers qui sont fait remarquer en weekly ces dernières semaines. Tous les bookers ont fait ah ouais, ouais, pas mal, ils sont pas mal, ouais, bah, ok, on les met dans PLE. Puis après, on a tout mis un petit peu en sourdine, quoi. On n'a pas forcément eu la
ouais,
arc qui nous a été montrée.
Seul non plus, quoi. Mais ouais. Même si je suis souvent le chantre de il faut aller mériter, il faut aller chercher, arracher ces opportunités au couteau et tout, il y a un moment, tu peux pas non plus tout retourner tout seul, quoi. Et là, je pense qu'ils l'ont pas mis dans les meilleures conditions pour, quoi.
Après, j'aurais aimé qu'ils soient un peu plus, qu'il y ait plus d'agressivité, de violence, hein. Vraiment de Zoé Stark aurait dû être encore plus forte, quoi. Il y a eu ce moment où elle demande à Rhea Ripley de la frapper, mais même ce moment, j'ai l'impression qu'il est arrivé un peu en contre-temps. Il n'y avait pas l'intensité à ce moment-là qui était suffisante ou pour en arriver, tu sais, à c'était et le traitement Liv Morgan presque, la pauvre, à ce moment-là.
Ouais.
Alors que on y croit plus, toi, Zoé Stark qui demande à ce qu'on la frappe.
Bien sûr,
on y croit plus. On y croit beaucoup.
C'était pas mal ce truc-là.
Oui, tu vois qu'il y avait
Parce que moi, en plus, ce que je demande, c'est pas nécessairement de faire un bon vieux match 50-50 comme Triple H adore les faire, là, un gros quart d'heure bien disputé pour au final terminer sur une victoire un peu tiède. C'est-à-dire qu'on aurait pu, par exemple, profiter de ce match pour booker qu'ils appellent un sprint. Parfois, c'est les matchs un peu à la Brock Lesnar. Hein, c'est très, très court. Il y a clairement un favori, un monstre versus un challenger. Et le challenger, en fait, donne tout très, très vite d'entrée de jeu et fait vaciller le champion et instigue le doute comme ça sur un match qui, finalement, à la limite, j'aurais préféré presque un truc de 5 minutes ultra intense où tu ressors de là bouleversé en disant « Putain, elle n'est pas passée loin ». Ces 9 minutes d'entre-deux en quelque sorte qui sont oubliables, hein, et qui concrètement ne marqueront pas grand monde, je pense.
Ce qui va marquer grand monde, justement, c'est notre main event jusqu'à parce que alors là, là, je pense que tout a été mis sur ce main
event. Oh là
là. Si vous pensiez que ce main event allait manquer de surprises, allait manquer d'émotions, je pense que là, on a mis tout le monde d'accord avec ce main event. Et ceux qui ne sont pas d'accord, bah, tant pis pour eux, puisqu'on a eu tout simplement probablement des meilleurs Wargames. Alors, celui de l'année dernière était assez excellent également, hein. Il faut se l'avouer, mais alors là, c'est vrai qu'on est resté au moins dans le même délire, là, avec Cody Rhodes, Jey Uso, Sami Zayn, Seth Rollins et peut-être Randy Orton, puisqu'on ne sait pas si Randy va être là ce soir, hein. Il est toujours porté disparu, même si officiellement, voilà, c'est lui, hein. C'est le cinquième membre de cette équipe, et il ne serait pas trop pour affronter en face le Judgment Day, qui a trouvé une arme létale, un Terminator, hein, puisque Drew McIntyre, quand il arrive et quand il entre, il marche tel Arnold Schwarzenegger, cible activée.
Le cyborg, ouais, là, ouais, oui. Clairement.
C'était assez exceptionnel. Mais avant l'entrée de Drew McIntyre dans la cage, c'est Finn qui était envoyé par toute son équipe, qui est pareil, était au diapason. C'était vraiment cool quand il s'arrive. Et quand il y a ce face-off entre McIntyre et Damian Priest, c'était vraiment bien foutu, quoi. Vraiment, il y a de la tension. Genre, on sait que voilà, ils sont pas ensemble pour les mêmes raisons. Il y a une guerre de coq, là, de leader entre Damian Priest et McIntyre. Qui est assez forte, et du coup on envoie Finn, et j'ai trouvé ça très très malin. Globalement, les ordres d'entrée étaient parfaits, tout simplement, pour nous raconter les petites histoires dans la grande histoire, puisque c'est ce qui nous a été proposé ce soir. Et en face, c'est donc Seth Rollins qui ouvre le show, enfin qui entre dans la cage en premier, donc pour affronter Finn Balor. Voilà, deux hommes qui se connaissent bien, évidemment, ils se sont croisés il n'y a pas encore très longtemps, pour le titre, avec Seth qui fait un énorme dive là, d'un ring à l'autre pour commencer le match, hein. Ça, on ne perd pas de temps, Seth Rollins, il veut faire le match, tout simplement. Il veut faire le match, avec ou sans Randy Orton. Il serait mieux si Randy vient, mais bon, là, il faut commencer, et ça se met sur ton « c'est tranquille », les deux hommes se connaissent, et JD arrive, et là, c'est quand même plus intéressant que ce sont les méchants qui ont l'avantage numérique, hein, mon beau Giscal, ce qui n'était pas le cas forcément avec les filles. Donc ça aussi, des fois, ça joue, il faut le dire.
Beaucoup plus efficace. Et là,
tout de suite, ça change la donne, puisque voilà, j'ai dit McDonald's, c'est un foufou, un petit Funko Pop agressif qui attaque et qui met des coups dans la tête. Alors le pauvre Seth Rollins, Jim McDonough se prend un coup de pied dans la tête, mais ça ne suffit pas. Les deux ont l'avantage numérique. Seth Rollins se fait soumettre, hein, par le Judgment Day. Et Jey Uso est le suivant sur la liste. Alors là, Jey, il arrive, il y va droit, il rentre et c'est parti. Tout le monde se met sur la tronche. À ce moment-là, c'est Drew McIntyre qui veut entrer. Alors Drew McIntyre qui a failli faire tomber la cage au moins 3 ou 4 fois, hein. Il se coule la cage dans tous les sens parce qu'il voit que Jey Uso rentre, toi. C'est ça, il l'a pas lâché les yeux, il veut Jey Uso, tu voyais la cage au fond là, qui bougeait, je me suis dit mais elle va tomber. Jey Uso lui était monté sur la cage, d'ailleurs il y a un plexiglas sur le toit de la cage. J'ai remarqué ça cette occasion. Quand Jey Uso est entré, parce qu'ils sont entrés les uns après les autres, les babyface, puis quel pop Giscal. Hein,
on a eu le droit au concours de pop encore une fois. Hein.
Mais Jey Uso, c'est impressionnant qu'il est monté sur la cage et qu'il faisait son hit movement là. Ça, c'était incroyable. Et puis Jey Uso, dès qu'il faisait des kicks, des claques, c'était des hit. Honnêtement, Jey Uso était le mec le plus over de la soirée, j'ai trouvé. En termes de. En tout cas, le plus au diapason avec le public. En tout cas, j'ai trouvé. Oh, c'est un concours, de toute façon, ils l'étaient tous. Et Drew qui va entrer, mais Damien qui lui dit non, on a un plan. Ils m'ont dit, mais c'est quoi le plan? Donc, il rentre pas, c'est Damien Priest qui rentre. Et oui, Damien Priest, il rentre. Et là, c'est la domination de Judgment Day. Qui arrive, le Sabi qui arrive, et lui, il y va. Grosse pop aussi pour le Sabi. Il rentre pour se débarrasser du Judgment Day. Alors, est-ce que c'est lui qui a fait rentrer la table? Oui, c'est lui qui fait rentrer la table. C'est Sami Zayn qui fait rentrer une table, il me semble, dans la cage. Bon, Giscal, tu me corriges si je me trompe, mais je crois qu'il a fait rentrer une table avec l'aide de ses deux poteaux.
Tu as raison.
Et quand il monte à la cage, Sami Zayn, la foule est en délire. Et là, il chope un tuyau, il met un tuyau. Quelqu'un a mis des tuyaux dans les coins de la cage. C'est du grand n'importe quoi. Un gros tuyau. Et du coup, ce tuyau est utilisé pour taper les gens. Drew McIntyre qui se laisse pas faire, ça attaque, il voit Jey Uso après avoir couché tout le monde, ça c'était énorme, le cyborg, tu l'as dit Giscard. Drew il descend, ça c'était excellent, il avançait à pas comme ça l'un après l'autre, ils envoient les babyface foncer sur lui,
il se faisait
éjecter dans tous les sens, c'était super, j'ai trouvé ça génial. Et donc voilà le match dans le match, la grosse vengeance enfin de Drew McIntyre, l'Écossais qui tombe sur Jey Uso, les deux hommes se mettent sur la tronche, et puis on a Sami Zayn qui vient aider Jey en plaçant le 1D, hein, le 1D, la prise des frangins Uso, ça aussi c'était cool, c'était vraiment sympa. Cody Rhodes peut enfin arriver. Cody Rhodes, c'est son papa qui a inventé les Wargames, et oui c'est Dusty qui a eu cette drôle d'idée farfelue qui nous casse les couilles maintenant, les surveillants stériles. Non mais n'importe quoi. Mais c'est le premier match de Cody, donc il y a de l'émotion, et il fonce sur Damian Priest. Et puis voilà, et cette relise, Cody, mais il est où Randy?
Oui, c'est pas mal ça. Dès que Cody rentre dans la cage et qu'ils ont un moment de répit, tout de suite, Seth Rollins qui l'alpague. Il dit alors, il est où? Ça c'était pas mal.
J'en sais rien, il arrive,
je sais pas. Non, il lui dit d'ailleurs, il dit je sais pas. Et l'autre, il dit comment ça, tu sais pas?
Tout en se tabassant avec les autres, tu sais, j'en sais rien, mec. Vas-y, aide-moi plutôt là, je suis en galère. Et puis après, la grosse hit énorme de Dom. Alors là, ça c'était génial parce que t'avais les chants 10, 9, 8, sauf pour lui. Lui, il avait des 8 dès le départ. Il arrive.
Ouais, dès que le compte à rebours a démarré, il se faisait déjà huer, c'est exceptionnel. Et...
avec son pantalon trop grand, je sais pas, il était habillé n'importe comment, il y avait une espèce de fausse ceinture en plastique, là, qu'est-ce que c'était que ça, n'importe quoi. Et puis il entre, et puis il veut placer les Three Amigos, et là, il se fait entourer par les babyface. Ouais. You fucked up. il se fait botter le cul, il se fait un peu isleterer lui aussi, on va dire.
Ah oui.
Par les babyface, ça c'était vraiment sympa. Et puis on a tout le beau monde, voilà, tous les heels qui sont là enfin réunis, qui prennent peu à peu le contrôle. Ce magnifique triple choc slam de Drew McIntyre et Damian Priest.
Super triple choc slam.
Ah ouais, sur Cody, Seth et Jey, je crois, ou Sami.
Oui, je sais pas. Peut-être. Ouais, je sais plus, mais en effet, il y avait Cody et Jey, ça c'est sûr.
Il y avait Cody et Seth, c'est sûr,
mais il devait y avoir Jey dedans, je pense.
Ouais, ça c'était fantastique, incroyable. La table, c'est pour Seth freaking Rollins, puisque Damian Priest.
Le Razor's Edge.
Énorme sur la table. À ce moment-là, je me dis,
sur le dos du champion.
Je me dis, ouille. Et puis, quelqu'un qui fait arriba, c'est Rhea Ripley, puisque la musique du Judgment Day est lancée.
Oui. Et la musique du Judgment Day, justement, intervient au terme du compte à rebours qui aurait dû faire rentrer le cinquième homme. C'était ça, le sel.
Le sel, c'est qu'effectivement, tous les yeux, toutes les oreilles sont tournées vers le titan tron à ce moment-là, puisque le dernier. On a un petit moment de flottement, on sait que la WWE est maîtresse, on maîtrisait tous ces moments de flottement avant d'appuyer sur le bouton pour vraiment faire entrer le bon catcheur, la bonne catcheuse au bon moment. Et ben là, c'est pas le bon catcheur qui est entré, mais c'était la bonne catcheuse, parce que c'est Rhea Ripley qui court avec...
Et oui,
elle a pas les mains vides.
Avec une arbitre aussi.
Et une arbitre, elle a pas les mains vides, elle a la mallette de Senior Money in the Bank, et là, je sais pas toi, mais dans ma tête, je fais... Oh là là, mais oui, c'était ça le plan de Damian Priest, qui va donc s'enfermer dans la cage pour transformer ce match en match pour le titre. Même si je suis encore là à me demander qu'est-ce qui se serait passé en fait, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là. On n'a jamais eu cette situation exceptionnelle. On sait que maintenant un match peut transformer en triple frite. Ça, on le sait, on l'a vécu. Mais alors, un War Games, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que le match est arrêté?
On ne sait pas, on ne saura jamais, mais qu'est-ce qui serait passé? Est-ce que n'importe qui aurait pu faire un tombé sur Seth Rollins, même quelqu'un de son équipe? On ne sait pas.
Tout le monde aurait été dans le match, t'imagines?
Oui. Tout le monde.
Ah, ça aurait été bizarre. Ça aurait été étrange, mais écoute, on n'en saura jamais plus. On n'en saura jamais plus, puisque à ce moment-là, avant que l'arbitre n'officialise, donc le cash-in n'aura pas lieu officiellement, c'est la musique de l'Apex Predator, de la Vipère, Randy Orton, et lui, il est bien là, et il est costaud, il a pris 25 kilos.
Oh là là là, il que du muscle. Hein. Moi, j'ai l'impression qu'il a triplé de volume.
Il y a 3 jours, on se moquait de lui en disant il est dans la piscine à faire des bombes avec ses gamins, mais en fait, le mec était à la salle.
Non, le mec était à la salle depuis un an, quoi. Ouais.
Et alors, qu'est-ce qui se passe? On est mal. Et donc, ils se font rouler dessus tranquillement, méthodiquement, par Randy Orton. On a eu des moments vraiment sympas. Bah, d'ailleurs, le petit face-off avec Jey Uso, qui voit d'ailleurs Jey Uso sauver Randy Orton en faisant un super kick sur un mec qui allait sauter sur Randy Orton. Donc, ça, c'était sympa. Ça m'a fait des petits clins d'œil aussi aux Wargames de l'année dernière, du coup, toi, où il y a des petites tensions comme ça en interne, et puis qu'on fait valoir son allégeance comme ça, en sauvant ceux qui doutent encore en nous. Ça, c'était sympa. Et puis alors, cet hommage au DDT de la part de tous les babyface, voilà, en harmonie. Le DDT d'Orton qui est placé sur les 5 méchants depuis les cordes du milieu, ça, c'était cool. Ça, c'était vraiment excellent. Et puis derrière, bah, on a quand même les méchants essayent d'exister, mais ça devient compliqué. On voit Sami et Seth qui balancent JD depuis le haut de la cage, et le RKO qui est placé sur le pauvre petit Funko Pop. Mais c'est même pas lui qui va se prendre le tourbé, c'est même pas lui, puisque Cody Rhodes place son crossroads sur Damien Priest pour la victoire. C'est Randy Orton qui fait le tombé. Je ne sais même plus si c'est Randy Orton qui fait le tombé sur
Damien Priest. Il offre le tombé à Cody Rhodes.
À Cody Rhodes, voilà. 1, 2, 3, victoire. Victoire. Ouais, même si tu avais Corey Graves qui disait que c'était la team de Seth Rollins, à un moment donné, je fais c'est Cody, le chef. C'est lui qui a fait revenir quand même Randy Orton, bordel. Et donc, la victoire des Babyface, Randy Orton est de retour, incroyable. Donc, enfin, dans nos concours de pronos, à la question, Randy Orton fait son retour. J'espère que vous avez voté oui, parce que c'est oui, ici, c'est pas ça. Randy Orton est là, la victoire au bout de plus de 30 minutes de match. Mais avant ça, il s'est passé quelque chose après, mais avant qu'on en parle justement, est-ce que tu veux parler du match, hein? Je pense que c'est bien de découper en deux.
En effet, tu as raison, c'est pas mal de découper.
Il y a eu deux finishes à cette soirée. Il y a eu deux histoires.
Waouh. Quel main event. Alors, s'il cherchait une façon de me faire aimer les Wargames, je pense qu'il ne pouvait pas mieux trouver. J'ai trouvé que c'était juste exceptionnel. J'utilise beaucoup trop, je pense, de superlatifs souvent pour dire à chaque fois que ce match est mon préféré de telle période ou telle période et tout. Mais enfin, ouais, je pense, enfin, c'est clairement là, il est passé number one de mes matchs de l'année et de mes main events de PLE de l'année. C'était incroyable. C'est ça, pour moi, c'est vraiment ça le catch, c'est le spectacle comme ça, c'est la folie. C'est des retournements de situation, c'est du storytelling, des surprises. Moi, j'avais l'impression vraiment de lâcher prise complètement pendant une demi-heure et de juste me laisser porter par ce qui se passait, juste de laisser les mecs nous raconter toute leur histoire. Enfin, globalement, tout faisait sens. C'était ultra organique, c'était super dynamique. Même la phase qui, pour le coup, on pourrait reprocher même aux Wargames de la Bloodline l'année dernière, je trouve, d'avoir eu ce fameux défaut, je trouve, de cette longue phase de 20 minutes là, qui est celle des entrées successives. Mais même là, il n'y avait pas de temps mort, les mecs se ruaient dans la cage les uns après les autres. Ils avaient, comme tu l'as dit, chaque entrée était bien calibrée, c'était les uns après les autres dans le bon ordre. Les mecs ne s'embarrassaient pas d'aller chercher les fournitures Ikea sous le ring, c'était habilement produit et construit, parce qu'eux, ils avaient eu la bonne idée, pour le coup, de leur donner des armes dans le ring, ce qui coupait beaucoup les temps morts.
Ah oui, effectivement, il y a eu notamment séquence, oui, j'ai oublié de parler de ça, tu as raison, vas-y, dis-nous, qu'est-ce qui s'est passé? C'est quoi, il y a non, des mais, armes dans le ring maintenant?
Mais c'est super bien joué, parce que du coup, Sami Zayn, tu l'as dit, il avait trouvé un tuyau en fer quand il a grimpé au-dessus de la cage, il y avait Damien Priest qui est rentré avec une sorte de bâton rétractable dans sa botte, il y a Cody Rhodes qui a trouvé hommage à son père et hommage au Hell in a Cell contre Cody Rhodes,
même, double hommage,
contre Seth Rollins, double hommage magnifique avec la corde, la bull rope, la corde de taureau avec la cloche dessus qu'ils ont trouvé manifestement sur le côté du ring entre la cage et le ring.
Donc ils utilisent tous les deux en plus, donc ça c'était bien.
Oui. Tout ça a été infiniment mieux joué. Bon, on va pas comparer systématiquement, même si quand c'est dans la même soirée c'est difficile, hein, mais voilà, tout ça donne énormément de dynamisme au match. Cette phase d'entrée était super, que ce soit ce qui se passait dans les cages avec Drew McIntyre et Damien Priest, ou évidemment dans le ring. Et puis après, quand c'est parti à l'intérieur, c'était la folie. C'est un bijou de booking et de storytelling. Tu ne peux plus en fait savoir où tu en es à un moment dans le match, et c'est ça qui est fou. C'est que tu perds complètement les pieds quand il y a ce décompte jusqu'à 10, et tu t'attends à voir Randy Orton, la cavalerie arriver, et là t'as d'un seul coup t'as un replay, et comme tu l'as bien raconté, d'un seul coup il y a les casques qui s'allument dans ta tête, tu dis mais oui c'était ça le plan, et donc ça y est, on va avoir le droit à un truc complètement fou, et puis en plus, et après t'as Randy Orton qui bam te retire par le col dans l'autre sens en arrivant, et puis tu sais plus où t'en es, et puis bah après c'est la folie, c'est l'enchaînement de spots, ce archéo du haut de la cage est absolument monstrueux, et puis bah, voilà, tu as déjà égrené tout le play-by-play de ce match, et donc cette victoire in fine, bah, c'est vrai que on a envie de dire à la fin quasiment inévitable, parce que c'est voilà, quand on voit l'armada des gentils, on se dit bah oui, comment voulait-il faire pour contrer tout ça, mais en même temps ça m'a même pas effleuré, tu vois, le côté couru d'avance ne m'a même pas effleuré l'esprit une seule seconde pendant que je regardais ce match, parce que encore une fois, c'était tellement habité, je trouve, par une intensité rarement vue, que tu voilà, t'avais juste envie de voir ces 10 gars se foutre sur la tronche. C'était terriblement bien produit, terriblement bien fait. Tout ça pour, en plus, accoucher d'une ultime surprise.
Eh oui, et quelle surprise, mon Giscard, puisqu'après ce match complètement fou, dont je partage entièrement les louanges, un match of the year contender naturel, eh ben, Triple H, il s'est dit quoi ? Il s'est dit, attendez les gars,
c'est pas
terminé,
fini.
Les gagnants sont là, pause, ouais, on en a gagné, les 5 sont alignés, quand tout d'un coup, une autre musique retentit, CM Punk.
Ah, tu l'as fait bien. Hein,
ouais, t'as vu ça. Si Raphaël était là, mais il serait dingue. Je pense qu'il m'insulterait, évidemment.
Tu fais du beatbox, toi, non?
Ouais, je fais du beatbox. Bah, tu sais, ça paye pas trop, hein, le podcast.
Ouais, mais je sais.
Bon, le beatbox, ça paye pas trop non plus, vu mon talent. Mais en tout cas, CM Punk a le talent suffisant pour revenir à la WWE, la Allstate Arena, qui avait déjà fait péter le toit. Bah, je pense qu'ils ont remis le toit, il a repété. Le toit a répété une seconde fois à Chicago. CM Punk fait son grand retour. Il s'est bien coiffé, il est propre. Il a pris une bonne douche. Hein. Il revient de la AEW, donc sale là-bas. C'est très, très sale.
Ouais. C'est vrai qu'il était tout propre. Il avait cheveux propres.
Un nouveau CM Punk. Un nouveau fil.
T-shirt immaculé, tout blanc, bien repassé. Franchement, carré. Hein.
Voilà. Pas de gros mots, voilà, le gendre presque parfait. Il vient, un bain de foule à droite, un petit bain de foule à gauche, et ça se termine comme ça pour CM Punk. It's clobbering time. Les deux finishes de la soirée ne se croiseront jamais. On ne verra jamais officiellement. Officiellement. En tout cas, ce soir-là, à ce moment-là, la réaction... Bah, de toute la clique, j'allais dire la réaction du roster, quoi. Les gars qui tiennent la baraque depuis des mois, depuis des années, à l'arrivée de CM Punk. Donc CM Punk de retour, il n'aura aucune interaction avec qui que ce soit ce soir-là. On garde ça, évidemment, puisqu'on est malin, la WWE, pour la semaine prochaine, même s'il y a eu derrière des petites conférences de presse. D'ailleurs, est-ce que tu l'as écouté ou vu cette conférence de presse?
Ah oui, j'ai bien.
Ah bah, tu pourras nous en parler.
Je l'ai
pas vu. Tu as sûrement peut-être des informations supplémentaires à nous donner. En tout cas, CM Punk est de retour. C'était notre concours de prolo. Est-ce que vous reverrez CM Punk? Bah oui, il était là. Il était bel et bien là. Et donc, c'est le 1-2 punch sur la Allstate Arena, sur le public. Incroyable. Moi, j'étais surpris. Je ne m'y attendais pas. Je ne pensais pas que c'était possible.
C'est une belle leçon. Une belle leçon. En effet, on le disait avant de lancer l'enregistrement. S'il y a bien au moins quelque chose qu'on aura retenu de cette soirée, c'est que tout est possible dans le catch. C'est jamais dire jamais. Les portes ne sont jamais définitivement fermées. Mais c'est le 1-2 punch. C'est déjà qu'on avait le souffle coupé à l'issue de ce main event et qu'on reprenait à peine nos esprits avec la célébration des gentils et puis ce petit visuel en bas à droite de votre écran avec les crédits. Hein. Il y avait le petit copyright et ils allaient rendre l'antenne. Hein. Et voilà, la grande spécialité de Triple H, il faut jamais couper le broadcast jusqu'à ce qu'on ait le splash screen avec le logo de la WWE sur fond noir. Hein. Il faut jamais couper. Et alors, moi, je te cache pas que je me suis fait avoir. D'ailleurs, je serais curieux de savoir parmi nos auditeurs combien ont coupé le broadcast à ce moment-là. Je ne sais pas, mais c'est vrai que moi, je me suis fait avoir à appuyer sur juste une avance rapide de 10 secondes, c'est sur le lecteur du network. On peut faire, on peut faire plus 10. On peut faire plus 10 parce que je voyais les crédits en bas et je me suis dit, c'est fini, mais je voyais qu'il restait un peu de temps. Alors, généralement, ils mettent les highlights de la soirée et tout. Et je fais plus 10, et puis là, je vois cette tête de connard là sur mon écran de punk. Mais qu'est-ce que c'est que ce bordel? Alors, je reviens en arrière
c'est une bonne leçon aussi de jamais faire plus de 10 secondes.
Ne faites jamais plus de 10. Bon, ça m'a pas gâché le moment parce que je pense que ça fait très très longtemps que j'ai pas eu des frissons comme ça. Alors, c'est paradoxalement, parce que peut-être que certains diront que je suis un hypocrite et tout. Je cache pas le fait que j'aime pas du tout l'homme. S'il n'était jamais revenu. Écoute, je m'en serais très bien porté. Je pense que la WWE est dans une période telle que, c'est pas lui qui va changer la face de WrestleMania 40 et on aurait eu un programme absolument fantastique et on continuerait à s'éclater. Par contre, malgré tout le désamour que j'ai pour le bonhomme, c'est indéniable l'aura qu'il a, le magnétisme naturel que ce mec a et qui fait que. J'ai beau en avoir rien à faire et je suis absolument pas ce qu'il fait depuis maintenant, ça fait quoi, 8-9 ans, j'avais la chair de poule quand il y a sa musique qui a retenti, parce que c'est un mix de plein de choses. C'est ce côté, il peut tout arriver, on n'y croyait plus en quelque sorte, et le voilà devant nous dans un moment complètement dingue, alors qu'on venait de se faire retourner 5 fois le cerveau sur la demi-heure précédente dans un match complètement fou. C'est cette somme de plein de choses qui fait que t'es complètement pris et tu te dis mais what, c'est exceptionnel ce à quoi on est en train d'assister, et puis t'es déjà en train de te faire le film dans ta tête de toutes les ramifications que forcément de ce retour. Donc moi, je vais pas cracher dans la soupe, je vais profiter de ce qu'il y a à prendre moi aussi, et c'est évident qu'il y aura encore il y aura sans doute, Punk va nous offrir encore de grands moments à la WWE en espérant, comme on l'a beaucoup dit sur le Discord déjà, que qu'il ait en tout cas mis qu'il ait été cadré, qu'il y ait eu une bonne discussion en amont, qu'il foute pas la merde et que tout cela se fasse entre bons professionnels. Je suis ni confiant ni pas confiant. Écoute, on sait pas ce qu'ils se disent et comment ils négocient les trucs, ces mecs là. En tout cas, à un instant T, c'est la folie. C'est incroyable ce qui s'est passé. Écoute, j'avais hésité à un moment de me faire, sur un coup de tête, me faire un énorme kiff et partir à Chicago pour aller voir les Survivor Series. Je me dis, avec le recul, tu te dis, putain, ça aurait été absolument dingue. C'est la folie. Bravo à la WWE qui sait encore, entre guillemets, un moment, on l'a dit, le catch n'est pas mort. Enfin, le kayfabe, les secrets, les mystères ne sont pas morts. Tout le monde a tellement spéculé sans rien savoir sur ce sujet, à dire que c'était pas possible, ou il y en avait d'autres qui voyaient des signes partout. Résultat, en fait, personne ne savait. Et donc, on est encore capable d'être complètement pris de court, à bout de souffle, surpris par des... c'est sans doute le retour le plus fou de mémoire récente, qui intervient le même soir en plus que celui de Randy Orton, qui était sacrément bien mis en scène. Donc tu sors de là, t'es épuisé, quoi. T'es épuisé mentalement et t'as qu'une envie, c'est vite envoyez-nous Monday Night Raw, ça va être encore pire qu'un Raw après WrestleMania. Là.
Ouais, carrément. Le shoot et le nouveau kayfabe, as raison, quand on voit, effectivement, on voit sur les réseaux sociaux, je vous ai dit, on n'a pas vu les réactions des catcheurs à l'arrivée de CM Punk, ça n'a pas été filmé, ça ne fait pas partie de officiel ce soir-là. Par contre, évidemment, les fans se sont donnés à cœur joie, les spectateurs, et ça, les catcheurs, ils le savent, tout le monde est bien au courant.
Bien sûr, ça, ils sont filmés.
Et là, tu te voyais, effectivement, tu avais quelques catcheurs, enfin, personne, il y avait beaucoup de gens qui n'étaient pas très contents du retour de CM Punk. Et évidemment, le plus vocal, le plus visible, c'est Seth Rollins qui lui fait des doigts d'honneur. Il a balancé des gros doigts d'honneur en l'insultant et tout, obligé d'être retenu par les arbitres et tout. C'était vraiment, vraiment bien ficelé. Donc voilà, une petite piste. C'est très, très, très naturel, effectivement, de voir les deux hommes se croiser un moment ou un autre. Mais on en saura plus, évidemment, durant le prochain weekly, donc oui, il sera à Raw, il va être là.
Ah bah, c'est annoncé, ça y est, c'est sur le programme, hein. Ils ont déjà dit que Randy Orton sera là, CM Punk sera là. Écoute, ils se sont garantis, je pense, un petit record d'audience, là.
Ouais. Mais incroyable, effectivement, ce retour de CM Punk. Moi, c'est pareil, je suis comme toi. Enfin, le mec a l'air d'être, assez, un gars relativement pénible à gérer dans la vie de tous les jours.
C'est le moins qu'on puisse dire.
Voilà, il a partout où il passe, il y a de la crasse, mais voilà, il est quand même de retour. Alors c'est ça le catch aussi, ça qui est fantastique, c'est ça le vrai business, c'est l'intelligence, c'est toutes ces portes qu'on imagine fermées au Bret Hart, au CM Punk, et ben les mecs finissent toujours par revenir. Hein. Qu'est-ce qui est best for business? On a même eu droit à la photo de CM Punk avec Triple H dans les backstage, où ils se pointent du doigt tous les deux, mais c'est pas ça, c'est
exceptionnel.
Niveau troll ultime.
Ah ouais, là,
C'est magnifique. Et je suis comme toi, je me suis vraiment fait surprendre. Je me suis fait avoir.
Ah ouais, moi j'étais comme un gamin là.
Ça fait plaisir.
Mais ça fait du bien.
Mais oui. Et on peut s'imaginer plein de choses. Je ne suis pas certain qu'il va revenir à temps plein, toi, en weekly. Je ne suis même pas sûr de ça, toi, d'utiliser.
Écoute, il va nous le dire. Ah non, alors par contre, encore une fois, j'accorde très très peu de crédit à tout ce que je peux lire sur ce qui se prétend être de la news sur internet, mais il semblerait qu'il ait signé un multi-year deal.
Oui.
Donc, c'est pas.
Il a dit j'arrive, je veux le même contrat que Jade Cargill. Notre transfert. Oui, en tout cas, un deuxième aller-retour WWE. Oui. Deuxième retour à la maison après Cody Rhodes, ce qui sera aussi productif celui de Cody. Bon. Je ne suis pas sûr que la rédemption, enfin l'histoire, soit vraiment la même, mais en tout cas, non. On a le retour de Phil le filou, voilà, Phil Brooks
est
de
Phil retour. Le
filou. À la WWE, et voilà, qui l'aurait cru? Qui l'eût cru? Et voilà, maintenant
moi,
il fait.
Moi, je fais amende honorable, clairement pas moi. Mais écoute, hein, comme quoi, voilà, encore une fois, tout est possible.
Et du coup, on arrive tranquillement à notre top flop note, donc notre mot de la fin. Avant ça, il faut qu'on lise, je crois, l'avis de certains membres du studio.
Ah oui.
Voilà. Tu sais que je n'aime pas ça, hein, partager l'avis des autres.
Non,
ça,
je sais.
Très, très, très pénible de devoir de donner la parole à mes camarades. Est-ce qu'on a ça? Oui, on a l'avis de Raphaël. Oui. Insupportable Raphaël, lui évidemment qui était content. On sait l'amour pour les gros cassos, les Page, les CM Punk. C'est vrai qu'il a quand même une adoration pour les enfants terribles du catch. C'est pour Raphaël. C'est pour Raphaël. Qu'est-ce qu'il nous dit Raphaël? Il nous dit ils sont forts. C'était clairement une soirée One Match Night.
C'est vrai.
Malgré un opener féminin correct, Gunther mise sympa, la carte était courte. Un gros ventre mou, mais un event de folie. La WWE a écrit ça incroyablement bien. Absence d'Orton, le suspense, le cash-in qui nous a fait tous y croire. Randy en feu, la foule séduite, le petit bonbon CM Punk au moment où on avait fini par oublier l'idée. C'est vrai. Là, c'était très fort. Pourtant, on a eu des chants CM Punk dans la soirée.
N'a pas manqué.
Oui, voilà. À quelques huées, voilà, mais quand même, des chants CM Punk. Pas un show, on se lève à chaque match, mais une soirée dont on se souviendra très longtemps. Il a raison, Raphaël.
Il a raison.
Flop pour l'absence d'un petit 5-5 éliminatoire de Lockhart. Ah ouais, ça y est. Balance la famille sur Survivor Series. Ouais. Il aurait bien vu ça avec les tactiques.
Malheureusement, il faut abandonner l'idée. Mais...
Ouais. Top, soyons larges, le main event. On a rarement vu autant d'alignements de babyface, de héros, de stars en face à face. Jay était top, Sammy, Cody parfait, Randy affûté comme jamais. Note 4 sur 5. Pour Raphaël, effectivement, je crois qu'il a mis le doigt sur pas mal de choses. C'est vrai que ce main event était assez incroyable. Je crois aussi que notre ami Ringside a dit des choses. Il a dit, c'était... Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit quoi?
Il a dit, Ringside, dites que c'était 5 sur 5, que tout était parfait, je crois. C'était sensiblement ça. Hein.
Il fait cool.
Et mentionner que le finish entre Gunther et Miz était un clin d'œil à Chris Jericho, mais évidemment, ça, on s'en est chargé. Donc c'est bon.
Jericho, en fait, il faisait le Lion Tamer sur les petits gabarits à la WCW, hein, parce que là où il pose le genou en plus.
Hein, et oui, tout à fait.
Très mal. Et qu'arriver à la WWE, c'était plus difficile parce que les mecs faisant 2 mètres, 1m90, du coup, il a transformé un Boston Crab en Walls of Jericho. C'est la naissance du Walls of Jericho. C'est pour ça que tout à l'heure, je ne savais plus quel était le hommage qui avait été rendu à ce, au grand tenant du titre, du nombre de règnes, de titre intercontinental. Comme tu le vois ringside, nous avons porté ta parole à nos auditeurs. Et Tony Khan est une maltringue aussi.
Il voulait le mentionner.
C'est très gratuit, hein, parce que là, franchement, oui, c'est limite vraiment... hors catégorie. Mais bon, oui. Hein, voilà. Et toi, Giscal, alors, qu'est-ce que t'en as pensé ? Dis-nous tout.
Eh ben, écoute, moi, j'en ai pensé globalement que du bien. Et d'ailleurs, je reprendrai les avis de Raphaël. Je trouve que c'était assez fidèle, je trouve, à la preview d'une certaine manière qu'on a fait. C'est-à-dire, voilà, on avait un pay-per-view qui était construit sur un match qu'il allait falloir ramer fort pour se faire, pour briller et pour exister dans ce PLE. C'est vrai, quel match, on pensait sans doute pas que ce serait d'une telle magnitude, mais c'est un peu pareil. Moi, c'est, écoute, un opener correct sans plus, et derrière, c'est dur de qualifier ça de ventre mou, mais c'est vrai que paradoxalement tu sors de cette soirée là les étoiles que t'as dans les yeux, c'est vraiment sur ces derniers trois quarts d'heure qui étaient complètement fous. Donc moi, j'ai aussi envie de mettre la note de 4 à ce PLE pour un main event qui en fait vaudrait la perfection à lui tout seul, mais qui fait que je peux pas aller plus haut, parce que c'est vrai que voilà, Rhea, Zoé, Santos, Dragon Lee, ou même Gunther Miss d'une certaine manière, c'est très sympathique, il y a pas grand chose à leur reprocher, mais voilà, c'est très sympathique et ça fait pas le figure par rapport à la folie qu'il y a pu avoir. Et d'ailleurs, mon flop, écoute, au début j'avais envie de le mettre plus au producteur du Wargames féminin, mais peut-être que j'étendrais en fait ce flop au producteur des matchs féminins, même au sens plus large, parce que tu vois, en le redétricotant, je trouve que Zoé Stark, Rhea Ripley, avaient des lacunes qui, à mon sens, étaient quand même un peu grossières dans la façon de mettre en scène ce match. Et j'ai pas envie de leur jeter la pierre ni aux nanas de Damage Control, ni à Charlotte, Bianca, Shotzi et Becky, et puis ni à Rhea et Zoé. Je pense que c'est vraiment, voilà, c'est aussi ce qu'on leur a donné à faire. Les met en fait naturellement, je pense, en difficulté et à une comparaison qui est pas qui reflète pas le niveau de ce qu'elles auraient pu faire. Je trouve qu'elles m'ont globalement quand même toutes impressionnées. D'une certaine manière, un peu fait mentir, mais fatalement, c'est la soupe qu'on leur a servie qui ne leur permet pas de pouvoir prétendre en fait à juste concourir correctement, quoi. C'est un peu le sentiment que j'ai eu. Donc c'est flop pour les producteurs, mais en même temps, voilà, le top il va au producteur du Wargames masculin, parce que je pense qu'en fait il y avait eu des coupures budgétaires chez les filles pour pouvoir mettre le pactole sur les mecs, mais ouais, voilà, c'est des mecs qui, en tout cas ceux qui ont pensé à ce main event, à son écriture, sont déroulés jusque dans les moindres petits détails, méritent d'être acclamés, parce que quel travail, quel bijou de storytelling, de mise en scène, de tension, de dramaturgie. C'était juste incroyable, et si c'est ça les Wargames, j'accepte en tout cas d'en avoir une fois par an. Vous m'avez convaincu.
Ouais, écoute, c'est vrai, coupure budgétaire chez les bookers, ouais. Moi, je vais le donner, mon flop, c'est effectivement un peu la même ordre d'idée, c'est effectivement ce ventre mou là aussi de ces trois matchs qui étaient sans surprise, quoi, sans...
Ouais.
Toi, vraiment, pas un strict minimum, mais c'était très propre et très sage. Ouais, très propre et très sage. Et j'aurais aimé que dans ces trois matchs, il y ait un match avec un peu plus de folie, peut-être chez les filles, hein, le Rhea Ripley, Zoé Stark, qui est effectivement peut-être le match où il y a le plus de...
Qu'il y avait la place.
Ouais, il y avait la place. Faut faire quelque chose de plus intense, tu vois, de plus intense. Mais globalement, je suis d'accord avec toi, on peut s'en prendre aux bookers. Hein, on peut s'en prendre aux bookers qui ont été un peu tchédas, sûrement très occupés. Hein, très occupés. Oui, peut-être qu'on leur a dit, les gars, de toute façon...
Vous emmerdez pas. On en revient à ce qu'on se disait en pré-show, quoi. C'est un pay-per-view qui a été fait pour ce match. Et les autres, il faut suivre. Juste, vous foirez pas, quoi, c'est tout.
Ouais, c'est exactement ça. Et puis mon top, écoute, je vais le donner à ce main event. De toute façon, c'est difficile. Ouais, c'est le main event, était complètement fou. Puis cette pop, en fait, cette pop. Et puis, la pop, et puis aussi toutes ces petites histoires racontées. Les entrées, ouais, les entrées. J'ai beaucoup aimé les entrées progressives des catcheurs. C'était vraiment bien écrit. À chaque fois qu'il y avait un mec qui entrait, j'étais vraiment excité. Il y avait toujours de la grosse pop, c'était bien foutu. Donc, ouais. C'était vraiment une grosse ambiance. Donc, ce main event était complètement dingue. Pour ma note, je pense que ça va être assez proche de... Difficile d'aller plus haut que 4 hein, quand même. Et je pense que même qu'en donnant 4, on donne beaucoup à ce main event. Mais il faut marquer le coup. Donc allez, gros 4 aussi pour moi. c'est terrible en fait, c'est très
bien. Il s'auto-convainc.
Oui, mais je suis comme ça. Bah oui, je suis en même temps. Toi, je balance pas des comme ça, des trucs. Voilà.
Ah ouais.
Voilà, je suis pas. On est
déjà. Je réfléchis pas, moi je balance.
Ouais, ouais le mec, bah. Donc un 4 aussi pour le mec, balance. Et après il réfléchit, tu sais. Il fait ah ouais, peut-être qu'en fait non, j'aurais peut-être pas dû mettre cette note. Ouais, 4 sur 5 pour, écoute, Survivor Series incroyable. Hein. On y allait. Alors on n'y allait pas à reculons, parce que quand même ce Wargames masculin était complètement dingue d'avance. Mais on avait toujours un peu nos doutes sur les Survivor Series. En fait, ils ont la formule pour le Survivor Series match. Ils ont la formule maintenant.
Oui, voilà, ils ont trouvé.
Pour ou contre avoir un pay-per-view estampé avec cette stipulation, bah écoute, la question ne se pose pas, puisque de toute façon, c'est comme ça que Triple H, il a ses lubies, donc à mon avis, c'est pas prêt d'en changer. Mais en tout cas, il faut le dire, l'exercice a été réussi à deux degrés différents. Soit chez les filles, elles ont fait avec ce qu'on leur a donné, et que ce soit chez les mecs, de toute façon, c'était le... Voilà, porté avec sur un plateau d'argent avec tout ce qu'il fallait pour nous proposer tout simplement un des plus grands matchs de l'année et ce finisher qui voilà désavoue tout simplement que dans le catch voilà il n'y a jamais de surprise dans le catch il n'y a jamais de pardon dans le catch il n'y a que du bad blood et ben écoute dans le catch moi je dis que tout est possible dans le catch et oui. Le catch c'est le rêve et quand on rêve tout est possible y compris les retours de CM Punk donc voilà ça c'est dit.
Bon, voilà, ça fait bizarre de le dire encore. Hein.
Oui, ça fait bizarre. J'ai du mal. J'attends, j'arrive. Je vais me réveiller, tu sais, genre. J'ai rêvé que CM Punk était revenu sur Survivor Series, qu'on avait fait l'analyse et qu'on trouvait ça. Que ça allait.
Ouais, c'était bien.
Ça passe. Bon, bah, quelle soirée jusqu'à quel week-end. Hein. Quel week-end.
Oh là là, quelle folie. Ouais, et dire qu'on a Monday Night Raw ce soir.
Bon, ouais. Ça va être dur. Ça va être dur de tenir. Hein, ça va être dur de tenir. On est déjà impatient, effectivement, de retrouver tous ces retours. Hein. On est comme une soirée avec les retours de R-Truth, Randy Orton et CM Punk. Alors, les trois retours étonnants pour différentes raisons. Mais on y a eu droit. Allez, je vous rappelle que Catch Up, c'est votre podcast qui analyse tous les shows de la WWE, les weeks, comme vous l'avez entendu, tous les PLE. Pour nous suivre et ne manquer aucun épisode, c'est très simple. Vous abonnez. Les bonnes plateformes de podcast, c'est simple et c'est gratuit. Donc, qui dit gratuit dit pas cher, comme dirait Ringside. Les réseaux sociaux, c'est Twitter, Facebook, Instagram, Catchup CDC. Le lien vers notre Discord est dans la description. Nous avons un nouveau champion roll-up dans les produits. Docteur Hiatus a fait un perfect.
Aïe, aïe, le salaud.
10 points, 5 matchs sur 5. Je suis très étonné qu'il n'y ait pas plus de perfect que ça. Et oui.
Ah, sur une carte aussi courte, oui, c'est vrai qu'en effet...
Avec zéro surprise en termes de résultats. Voilà, et moi-même, je dis ça, que j'ai voté Damage Control, mais pour une mauvaise raison. La raison, c'était parce que j'avais envie d'y croire. Toi, une fois de plus, tu vois, tu te dis, ouais, allez, cette fois-ci, c'est la bonne. Et on est beaucoup. Il n'y a que 6 personnes qui ont voté pour l'équipe de Becky Lynch et Charlotte Flair. Mais voilà. Ils avaient tort. Toi, Giscal, tu t'es planté sur l'autre match. Ça, c'est complètement.
Ouais, écoute, tu vois, j'ai appliqué le bon raisonnement à l'opener. Damage Control perd toujours et les babyface sont trop fortes. Et bah, globalement, c'est un petit peu le même délire quand même avec Judgment Day où c'est vrai que quand ils sont tous ensemble, c'est pas forcément gage de succès.
Non.
J'ai pas tiré le raisonnement jusqu'au bout et je sais pas, je me suis dit, il va se passer des trucs avec Randy. Mais en fait, non, Randy était très bonne humeur. Dimanche.
Ouais, il était content d'être là.
Il était heureux de retrouver ses copains et puis de montrer son nouveau coup de taureau qui fait la taille de mes deux cuisses là. Ouais.
Pourtant, elles sont déjà bien épaisses tes cuisses, hein, jusqu'à là.
Oui, et pourtant, et si vous saviez, oui, en effet.
Bon, et ben voilà, donc nouveau champion roll-up. Et puis dans le classement général, ça ne bouge pas. Je vous invite à aller donc sur le kicktip.fr/catchup pour voir évidemment tous les résultats. Et voilà, le dernier, voilà, on arrive sur la fin de l'année, hein, le Rumble. Et puis après WrestleMania, et ce sera la fin de cette deuxième saison des concours de prono. Donc on y croit fort, on y croit fort. Merci à toi, Giscal, de m'avoir rejoint, de m'avoir même invité, de t'être proposé. Hein. T'avais envie d'analyser rapidement ce Survivor Series.
Ah, je me dis, dès lundi, ouais, hein. Il fallait battre le feu, le fer tant qu'il était chaud. Et puis c'est surtout que les gens, là, ça va tellement vite maintenant avec ce Monday Night Raw qui va sans doute rebattre les cartes dans tous les sens. Les gens vont passer à autre chose. Donc il fallait qu'on en parle.
Ouais. Là, on arrive aussi. C'est pas tout le temps qu'on arrive à faire l'analyse de pay-per-view avant le Monday Night Raw. Et pourtant, maintenant, c'est samedi soir. Donc, on devrait y arriver. Mais c'est tellement chaud, la WWE, que parfois, eh bien, voilà. Il faut y aller. Et cette fois-ci, on y allait. Merci à toi. Et donc, on se donne rendez-vous très, très vite hein, pour le Monday Night Raw le plus attendu de cette fin d'année. Je te remercie Giscal et je vous donne rendez-vous à très vite. D'ici là, on vous souhaite à toutes et à tous une bonne semaine pleine de catch. Salut, salut.
Allez, ciao, ciao tout le monde.
Il faudrait un t-shirt avec les trois. Toi, la nuit des retours ou le retour des morts-vivants.